Merci frère pour ce panorama très large. Pour ouvrir le temps des questions, vous avez bien évoqué le fait de la naissance dans le désert d'Égypte, notamment de tout ce mouvement, puis ce qui se passe en Europe, avec notamment le monachisme celtique et cette expansion sur tout le continent. On voit bien que c'est une histoire européenne. Deux petites questions par rapport à ça. À quel moment disparaît l'application de la règle de Saint-Colomban ? Culture personnelle, oui. Parce que vous aviez dit que c'était important, et puis qu'à un moment, effectivement, c'est plutôt le Saint-Benoît qui...
Oui, la transition se fait jusqu'au 9e siècle, quoi. Hein.
9e.
Sauf qu'en Irlande, ils ont gardé, non pas la règle de Saint-Colomban elle-même, mais parce qu'elle, elle a été écrite sur le continent, mais ils avaient de toute façon leurs usages à eux, et ça jusqu'au 12e siècle. C'est justement Citeaux qui a commencé à faire venir le monachisme bénédictin en Irlande. Avant, c'était toujours leur propre coutume. Et en plus, les Irlandais continuaient de venir en Europe. Et ils avaient, par exemple, le monastère des Écossais à Vienne, Shotton Aptaille, et qui était toujours alimenté par des vocations venues d'Irlande.
D'accord. Et le deuxième point, vous l'avez un petit peu évoqué en filigrane à un moment. Quelle est l'importance du monachisme dans l'équilibre des pouvoirs en Europe entre le séculier profane, je dirais,
et c'est toute une thématique,
de construction d'État, etc., Rome, les évêques,
oui.
Voilà, est-ce que ça a été un facteur d'équilibre ou un facteur de...
Oui, c'est très juste, c'est très compliqué. Il y a eu un dossier là dans la revue... Je ne sais plus quelle revue d'ailleurs, dommage. Mais enfin, il y a eu un dossier moines et monastères au Moyen-Âge, et dedans j'avais lu une phrase qui m'avait bien fait tiquer. C'était justement, oui, lors de la prise du pouvoir monastique au XIe siècle, voilà, donc c'est un élément, donc lors de la réforme grégorienne en fait. Hein. Alors, grégorienne, le grégorien c'est Grégoire Ier, biographe de saint Benoît, mais là, grégorienne c'est Grégoire VII, donc qui était moine. D'où l'idée que c'est une prise de pouvoir monastique parce que le pape est un moine. Voilà, bon, ça peut arriver, hein, c'est pas... et donc, bon, donc c'est vrai que au départ, j'ai essayé de vous montrer que le mouvement monastique était au départ purement... Alors, c'est pas laïque, mais quand même, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Normalement, ce ne sont pas des prêtres, voilà. C'est pas lié à l'épiscopat, Mais... Pardon, c'est sous sa vigilance toujours. Ils n'ont jamais voulu se mettre hors de la... Ça, c'était une hérésie. Il y a eu l'hérésie des eucites, ceux qui voulaient prier sans cesse et qui voulaient finalement se passer des sacrements et donc aussi de la hiérarchie ecclésiastique au nom d'un charisme supérieur, celui de la prière. Bon, ça, c'est une déviance. Dans le monachisme chrétien, il n'y a pas cette déviance. On se met évidemment sous l'obéissance des évêques. Alors à un moment donné, on dit que c'est plus malin de se mettre sous la domination, sous l'obéissance du pape. Parce que l'évêque, souvent, il a ses propres intérêts, y compris terriens et autres, et il ne comprend plus la vie monastique, et on va pas pouvoir faire ce qu'on veut. Hein. Donc, ce qu'on veut au sens d'avoir notre vie qui a ses exigences propres. En particulier, les évêques, très dangereux, prenaient les moines pour en faire des prêtres de leur clergé. Et bien sûr, il y avait aussi des moines qui devenaient évêques. Alors, à ce moment-là, ils considéraient ça plutôt comme un sacrifice qu'ils faisaient. Hein, voilà, c'est que ça arrive encore aujourd'hui. Voilà. Mais, donc, normalement, il y a une bonne entente, quoi, sachant que c'est l'intérêt des évêques d'avoir des religieux, mais pas seulement des religieux apostoliques, mais aussi des religieux comme nous, sans apostolat, quoi, hein, des religieux contemplatifs. C'est dans leur intérêt bien compris. Et c'est dans l'intérêt des moines d'être toujours disponibles quand l'évêque a besoin d'eux, mais pourvu que ça n'empiète pas trop sur leur mode de vie. Alors après, c'est vrai que Rome a fait appel, en effet, aux moines aussi. Des moines sont devenus évêques de Rome, donc pape. Et puis, c'est vrai que, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'abbé de Cluny étant au même niveau pratiquement, je veux dire en fait en termes... de politique ecclésiastique, hein, donc c'est au niveau, finalement, l'abbé de Cluny n'était pas évêque, donc il n'était pas au même niveau, si vous voulez, au plan sacramentel, hein, que le pape, mais il était tellement important que le pape ne pouvait pas faire autrement que de faire appel à lui pour fonder des monastères, par exemple, en Espagne, au cours de la Reconquista, ce genre de choses. Hein. Et c'est vrai qu'on a pu penser qu'en même temps, le pape ou l'abbé de Cluny, ou je ne sais pas qui, voulait que tous les prêtres deviennent des sortes de moines. Hein, en leur imposant, c'est comme ça qu'on décrit ça, mais est-ce que c'est ça, je ne sais pas, leur imposant le célibat, leur imposant l'office monastique, c'est-à-dire que le bréviaire des prêtres était en fait très, presque équivalent de celui des moines. Donc voilà, c'est un peu cette problématique.
Hein. C'est juste célibat des prêtres, c'est fixé quand?
Alors fixé, je ne sais pas, mais c'est présent très tôt. C'est
11e, non?
Non, non, bien avant ça, en fait.
Enfin, ça devient une règle.
Alors voilà, justement, on dit, ah voilà, vous trouvez ça dans vraiment au niveau de l'Église romaine que au XIe siècle. Donc, oui. Mais en réalité, il y a déjà des conciles locaux bien avant. Voilà, c'est pour ça. Hein, donc, mais du coup, après, quand on veut dire que la réforme grégorienne s'est imposée la vie monastique à toute l'Église, alors on va prendre ce genre d'argument, entre autres. Mais c'est un peu biaisé, quoi. C'est pour ça que j'avais tiqué très fort en voyant la phrase en question. Parce que les moines n'ont pas du tout l'intention de prendre le pouvoir. C'est pas ça. Mais c'est vrai que là, fatalement, ils avaient tellement de terres, etc., que bon, on pouvait pas faire deux pas sans tomber sur une abbaye à l'époque. Hein, donc c'est sûr que c'était un peu fort, quoi. Alors voilà, il y a des questions.
J'aurais peut-être, dans le prolongement, et après j'ai trois questions de dégâts importants, mais c'est rapide. La première, en prolongement, quel regard vous portez sur la commande, le développement de la commande sur la fin du XVIIIe ? La deuxième, pour prolonger, c'est est-ce que, dans cette logique monastique, il y a une distinction ou une séparation entre le sacerdoce et l'activité monastique ? J'y pense, quand on était à la messe ce matin, on a vu que certains d'entre vous étaient prêtres, d'autres pas. Mmh. Est-ce que c'est une pratique, une réflexion, un comportement? Et la troisième question, c'est vous avez abordé la question de la chasteté. Est-ce à dire que quelqu'un qui aurait une vie, par exemple, d'homme marié, ne pourrait pas prononcer de vœux de moine ou pas? Enfin, est-ce que chasteté veut dire virginité ou pas? C'était le sens de ma question.
D'accord, oui. Non, alors c'est pas dans ce sens-là. Je peux répondre comme ça brièvement, pour revenir après. C'est pas dans ce sens d'être vierge, n'avoir jamais eu de relation, qui fait qu'on peut faire le vœu de chasteté. C'est au contraire, si on est marié, on peut ensuite devenir moine, mais pas simultanément. C'est surtout ça. Voilà, alors donc je reprends la première question, donc la commande. Donc là, c'est surtout en France qu'il y a eu cette pratique-là. Parce que j'ai fait allusion tout à l'heure au fait que l'abbé était forcément quelqu'un, finalement, d'une grande famille, soit noble, soit très riche. Parce que, en fait, l'abbaye ayant des biens, ayant un rôle politique, social très important, en fait, Saint Bernard, par exemple, était un noble. Et il était jusqu'au bout des ongles. Parce que, et c'était logique qu'il devienne abbé, quoi. Voilà. Donc, ça, la commande, c'est un peu la continuation de ça. C'est-à-dire que le roi se dit, mais moi, j'ai les familles qui m'aident dans mon gouvernement. Eh ben, je vais d'abord faire en sorte que prioritairement ce soit ces familles-là dont les fils voués aux ordres deviennent abbés. Voilà, évidemment. Donc il a demandé au pape, au XVe siècle, mais ça existait déjà avant, mais au XVe, il y a eu François Ier qui a eu le concordat de Bologne, au cours duquel, entre autres, il y avait ce point-là, que c'était lui qui nommait les abbés. Hein, donc voilà. Au fur et à mesure, donc, les abbés n'étaient plus des moines, c'était en fait des ecclésiastiques. Alors là, on arrive avec l'idée aussi de séculier, il y avait cette question. Donc finalement, on a considéré qu'un évêque ou un prêtre séculier, c'est-à-dire appartenant au clergé d'un diocèse, était apte à être, comme ça, sans plus, à être abbé. D'une abbaye ou prieur, si c'était qu'un prieuré. Donc un prieuré, c'est une maison dépendante d'une abbaye. Voilà, donc ça a été... Alors moi, je dis que c'est un abus, mais c'est vrai qu'une fois, j'en ai parlé à quelqu'un, mais comment ça? Mais vous prenez position, c'est pas objectif, c'est pas de l'histoire, là. Bon, enfin, en tout cas, c'est quelque chose qui n'est pas prévu dans la règle, puisque le rôle dévolu à l'abbé par Saint Benoît est celui d'être un père de la communauté. Mais c'est vrai que c'est quand même un peu la suite logique, puisque, par exemple, l'abbé de Cluny, ben, il n'était quand même pas souvent à Cluny même, évidemment. Et d'ailleurs, il y en a trois qui sont morts, au moins trois qui sont morts en dehors de Cluny. Donc la commande, bon, c'était... Alors après, ça pouvait très bien se passer. Ici même, à Saint-Bondry, il y a eu des abbés commendataires qui venaient souvent, tout en n'étant pas moines, et qui faisaient tout pour aider la communauté. Par exemple, au moment où on a eu une épidémie, je ne sais pas si on vous a montré l'allée où il y a toutes les tombes, les moines sont morts presque tous la même année. Bon, alors là l'abbé commendataire faisait tout pour aider la communauté à ce moment-là, au-delà de ce qui était de son strict devoir en tant qu'abbé commendataire. Donc ça pouvait des fois bien se passer aussi.
Il y avait Thierry et Emmanuel.
Oui, vous avez évoqué le combat spirituel. J'ai été intéressé par cette expression. Est-ce que vous pratiquez aujourd'hui, vous avez le sentiment de pratiquer un combat spirituel ?
Eh bien oui, oui, oui. Alors voilà, donc ça remonte comme, en effet déjà à saint Antoine, mais déjà avant lui, enfin, de toute façon aux premiers écrits chrétiens, saint Paul, etc. Donc saint Paul dit justement, ce n'est pas contre les puissances de ce monde que vous vous battez, ce sont contre les puissances spirituelles. Alors dans les deux sens, c'est-à-dire que spirituel, ça peut être ce qui n'est pas matériel, donc il évoque effectivement la présence d'êtres spirituels au sens des démons ou des anges qui peuvent intervenir dans notre propre vie, voilà. Mais aussi spirituel au sens du Saint-Esprit, c'est-à-dire donc alors là c'est Dieu, c'est pas pareil, on monte d'un cran, et notre vie spirituelle c'est aussi la vie dans l'Esprit, hein. Alors elle est un combat, pourquoi ? Ben parce que justement il y a le péché, et que le péché c'est au départ un refus de Dieu. Il y a le péché originel, mais il y a aussi celui que je commets aujourd'hui et qui est de nouveau contraire. Hein. Alors saint Paul a dit, ben voilà, malheureux homme que je suis, je ne fais pas le bien que je veux, donc il est conscient qu'il veut quand même appartenir à Dieu, et le mal que je ne veux pas, ça c'est à ma portée. Voilà, donc ça c'est disons, la définition de ce combat spirituel. Alors après, il y a toutes les péripéties de ce combat qui se renouvellent chaque jour, hein, et que c'est jamais fini. Alors l'apathie, ça représente une étape dans ce combat spirituel, dans la mesure où là, on a déjà remporté un certain nombre de victoires, et que le combat se reporte à un autre endroit, parce que si vous avez fini, entre guillemets, parce qu'on n'a jamais fini en vrai, de lutter contre vos passions, la colère, la gourmandise, la luxure, etc., etc., l'orgueil, et là vous n'êtes plus, apparemment, hein, en tout cas temporairement, sur ce terrain-là, eh ben, le combat va automatiquement se reporter ailleurs. Hein, et à ce moment-là, ça va être effectivement la... Parce que le péché demeure, en fait. Hein, même si le baptême l'a fortement anesthésié, eh bien, il demeure. Et donc, au moment où vous remportez une bataille, il y en a une autre qui va se surgir. Alors, ce sera peut-être de l'extérieur. Ce sera un frère à côté de vous que vous ne pourrez plus supporter. Et ça va devenir votre combat spirituel. Voilà. Mais plein d'autres choses. Une maladie... toutes sortes de choses. Voilà, c'est ça qu'on entend en gros, combat spirituel. Mais je crois que... Ah oui, pardon.
Et ma deuxième question, vous avez cité comme base de votre appel, semble-t-il, Livre des Actes, chapitre 2, verset 42, il persévérait...
Ah, bravo, je n'avais pas donné les numéros.
Il persévérait donc dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans les prières. Est-ce que vous comprenez qu'on peut avoir aussi le sentiment de vivre cela sans être moine ?
Parfaitement, bien sûr. Bien sûr. À chaque fois, il s'agit d'une observation, d'une observance qui sera, qui prendra les choses un peu plus au pied de la lettre, sans exclure qu'en réalité, le faire exécuter matériellement ce qui est contenu, par exemple, dans ce verset, ou par exemple dans le chapitre des Béatitudes, ou exécuter ceci matériellement, non seulement ça va s'avérer parfois impossible, mais en plus, c'est pas ça qui est visé, en réalité. C'est toujours le sens spirituel de ce qui est écrit qui est visé, ultimement. Mais en même temps, ce qui est écrit peut servir pour rejoindre le sens spirituel.
Merci.
Oui, peut-être pour revenir un peu aux définitions, parce que je dois avouer que je suis personnellement un peu perdu entre tous les ordres. Parce que de ce que vous en dites, c'est la règle monastique, c'est donc clos avec trois vœux de pauvreté, de chasteté, d'obéissance. Mais c'est aussi le cas des chartreux qui ne sont pas des moines.
Si, alors eux, oui, ce sont des ermites. Voilà,
sont des ermites qui ne sont pas sous une règle.
Ils ne sont pas bénédictins, voilà. Alors il faut effectivement distinguer moine qui.
Est-ce qu'on pourrait faire une typologie, en fait, des ordres ? Parce qu'il y a aussi des ordres qui sont totalement dans la vie séculière, par exemple dans la vie économique. Je pense à certains cisterciens qui sont dans du développement. Économique, désordre hospitalier, dont on peut parler, mais qui sont aussi qui ont un quatrième vœu pour soigner les malades.
Tout ce que Pierre Vaux appelait les ordres militaires.
Les ordres militaires également, qui peuvent être un peu différents, parce que l'ordre du temple était un ordre monastique, il me semble.
Militaire, en fait.
Militaire,
mais avec une règle monastique.
Avec une règle d'ordre militaire. C'est Saint-Bernard qui l'a écrite, mais il a écrit une règle monastique. Enfin, il n'a pas écrit une règle monastique, puisqu'il y avait celle de Saint-Benoît, mais justement, il a dit pour des soldats, il faut une autre règle. C'est un ordre. C'est vrai que moi, je ne sais pas dans. Je pense pas souvent aux ordres militaires, mais en effet, ça existe, oui. Okay. Enfin, je vous ai dit, aujourd'hui, dans tous les écrits que Rome fait, et puis donc il y a une congrégation à Rome qui s'occupe des instituts de vie consacrée. Donc le terme qui englobe tout, c'est la vie consacrée. Mais moi, je vous ai remis tout depuis le début, et ça se présente un peu différemment. Au départ, vous avez simplement des hommes qui vont dans le désert, et qui vont voir Saint Pacôme, et voilà. Et c'est la seule forme de vie consacrée. Mais à l'époque, on dit pas vie consacrée, on dit, voilà, je veux faire mon salut, enfin, je veux être sauvé. Voilà. Mais peu à peu, forcément, le droit canon a essayé de préciser les choses. Et à ce moment-là, on a dit, vous êtes ermite, vous êtes cénobite. Voilà. On commence à préciser, en gros. Hein. Et puis alors, c'est vrai que chez les moines orientaux, orthodoxes et autres, là, il n'y a que ça, en fait. Mais pour eux, c'est la vie monastique. Mais quelle que soit l'activité que vous avez. Par exemple, les Libanais, qui sont catholiques, mais qui sont de rite oriental, pour eux, moine, ça peut très bien être s'occuper d'une paroisse, etc. Donc, mais c'est monastique, parce que pour eux, être moine, c'est plus quelque chose, une disposition de toute la personne, de toute sa vie, quoi, que des observances, que des détails extérieurs. Nous, les Latins, on veut définir les choses par des points bien précis. Donc pour la vie monastique, on a dit il faut en effet une clôture, il faut réciter l'office en commun, il faut avoir l'obéissance à un supérieur, etc. Un certain nombre d'éléments. Et donc, à un moment donné, tout le monde était rentré dans cette catégorie-là de moines. Et encore une fois, en Occident, il y a eu pas mal d'ermites, mais c'était moins réglementé, c'était souvent minoritaire. Donc on se focalisait sur les cénobites. Voilà, tout ça, c'est des moines. Après, je vous ai dit, il est apparu les chanoines. Bon, ça existait plus ou moins, mais c'est devenu officiel, des chanoines réguliers. Alors on leur a dit, il faut que vous ayez une règle, c'est Saint-Augustin. D'accord. Parce qu'il fallait que ce soit une règle ancienne. Alors voilà. Et eux, alors, leur but, c'est quand même l'apostolat. Mais ils ont gardé, comme je vous disais, plein d'éléments de la vie monastique, en disant, tout ça, c'est pour nous, plus on veut faire de l'apostolat. Alors, les ordres mendiants, même chose, disent, nous, on est des chanoines, mais, c'est les dominicains, on est chanoines, mais en plus, on ne veut pas avoir d'abbé, et on veut vivre de la mendicité.
Alors, par exemple, la différence entre un chanoine et un moine, c'est quand même que l'un est prêtre et l'autre.
Exactement, oui, je ne l'ai pas dit, en effet. Mais alors, après,
les moines prêtres, c'est
le voilà. Alors oui, c'est vrai, c'était votre question que j'avais un peu laissé tomber. Oui. Alors en fait, je vais bien insister qu'au début, les moines ne sont pas des prêtres. Alors, il faut toujours penser qu'il y a aussi les sœurs, les moniales. Hein. Donc au départ, c'est vraiment quelque chose de laïque, entre guillemets laïque, c'est-à-dire au sens pas sacerdotal. Et puis après, alors justement dans le même mouvement qui va être poussé à son maximum à Cluny, c'est-à-dire qu'on dit les moines doivent prier, bah, en plus ce sont des hommes, ils sont pieux, ils prient, ils connaissent la Bible, gna gna gna, ils connaissent la théologie, bah, pourquoi ils ne seraient pas prêtres ? Parce que comme ça ils offrent la messe, et là ça c'est une prière qui marche. Donc, et en plus, bah, chaque prêtre dit la messe, chacun dans un hôtel. C'est pour ça qu'il y a vous voyez les traces des chapelles rayonnantes, là. Donc, voilà. Donc ça, c'est poussé aussi une certaine logique du sacrement, quoi, de dire, bah, puisque les moines sont là, bah, on va les ordonner prêtres. Vous n'êtes pas d'accord ? Si, si, non, ça nous va. Bon, bah, allez. Hein, donc, effectivement, il y a eu ça. Mais, et alors, du coup, les chanoines, puisque à l'origine, c'était des prêtres qui étaient regroupés par leur évêque, alors là, c'est une autre façon d'y arriver. On dit, bah, ces prêtres-là, ils veulent être en plus sous une règle et un abbé. Donc on rejoint, finalement les deux se rejoignent. Si bien que chanoine, moine, à ce moment-là, ça commence à se ressembler furieusement. Sauf que, bon, bah, donc les dominicains, ils disent, nous, bah, on veut pas d'abbé parce que ça, c'est plutôt gênant qu'autre chose, et on veut être mendiant, et on veut enseigner, et on veut prêcher. Les franciscains, ils disent à nous, au départ, saint François, il dit « Je veux pas être prêtre, je veux pas d'argent, je veux vivre très simplement selon l'Évangile. » Bon, puis finalement, de fil en aiguille, il dit bah, « Il faut quand même écrire une règle. » Bon, il écrit une règle, puis de fil en aiguille, il ressemble beaucoup aux dominicains, mais avec cette figure spéciale de saint François. Hein. Voilà, donc là, alors là, ce sont des moines « entre guillemets », c'est-à-dire canoniquement, ce ne sont pas des moines, parce qu'ils n'ont pas cette clôture... et cette vocation contemplative, voilà, donc, au niveau du moine. Par contre, au niveau du langage courant, ce sont des moines. Par exemple, la publicité chaussée aux moines, vous voyez un franciscain. Voilà, donc, il faut distinguer le langage courant et le langage canonique.
Bon, sur les bouteilles de pinard.
Voilà. Par contre, le champagne, c'est un bénédictin.
C'est un bénédictin.
Dom Pérignon.
Voilà. Qui était originaire de Vannes, qui a été père abbé.
Ah bon ?
Eh oui.
Ah oui. Ça c'est. Donc ça, je savais pas ça par contre. Ça m'en bouge un point. Voilà. Alors et donc après, ce que j'ai voulu dire, c'est que on s'est dit, mais finalement, la vie religieuse, cet idéal de consécration, est-ce qu'on peut pas le détacher carrément des usages monastiques ? Alors les orientaux ne l'ont pas fait et ne le feront pas. Hein, ils veulent pas. Non, non, eux ils préfèrent avoir un office très long et tout le reste. Et puis ben, s'ils font quelque chose d'autre en plus, s'occuper des malades, s'occuper de l'enseignement, et ben ils le font. Et puis ils dorment moins. Et puis voilà. Et nous on dit mais c'est pas logique. En fait on n'a pas besoin de dire l'office pour aller ensuite s'occuper des malades. On peut être simplement au service des malades. Et d'ailleurs, le Christ a dit « J'étais pauvre, vous m'avez vêtu, donc vous voyez, et clac. » Et c'est vrai aussi, hein, on ne peut pas dire « Eux, ils ont tort, eux, ils ont raison. » Les deux sont vrais, en fait. Hein. Mais il se trouve que nous autres occidentaux, on a raisonné comme ça, et on a agi comme ça. Donc, vous avez donc effectivement, après, finalement, peu importe après ce que vous faites, mais moi, ce que j'ai voulu distinguer, c'est au niveau presque, enfin, un peu canonique, un peu, de dire bah, « Qu'est-ce qui... » Voilà, donc parce qu'après, si vous voulez ne plus être moine pour être au service de l'enseignement des pauvres, et alors l'ordre militaire c'est un peu particulier ça, mais eh bien très bien, mais ça ne change pas, disons, le fait qu'ils soient religieux, c'est-à-dire qu'en effet, ils sont pauvres, chastes et obéissants, voilà. Et sachant qu'à la limite, voilà, on a été jusqu'à supprimer l'habit, supprimer le lieu de vie commun, dans les instituts séculiers, mais qui restent assez modestes au point de vue nombre.
Il y a deux dernières questions, je crois. Pierre et Claire.
J'ai l'impression qu'il y a une multitude de communautés ou d'orges, je ne sais pas quel vocabulaire il faut employer aujourd'hui.
Les deux sont vrais.
On voit des communautés nouvelles encore se créent aujourd'hui. Je pense aux communautés de l'agneau, peut-être au Verbe de vie. Enfin, il y a plein de choses qui se créent. Est-ce qu'on a une idée, grosso modo, du nombre de communautés aujourd'hui qui existent ? Qu'est-ce que vous pensez de cette pluralité? Est-ce que c'est une chance parce que ça permet finalement à chacun qui a envie de consacrer sa vie au Christ de pouvoir le faire par rapport à ses sensibilités? Ou est-ce que vous considérez à l'inverse que ça crée de la confusion? On n'est pas sans savoir qu'en plus, certaines communautés ont quelques difficultés à communiquer entre elles. Pourquoi? Alors, est-ce qu'on ne peut pas considérer que c'est plutôt complémentaire, ou est-ce qu'au contraire, on pense que certains pensent que les autres dérivent ou autre?
Pierre et les sectaires.
Claire, aussi, je peux peut-être poser ta question, Claire, puis comme ça,
on fera une synthèse des deux.
Moi, j'ai une question un peu personnelle. Je voulais savoir, qu'est-ce qui vous a attiré dans la clôture?
Oui, bon, effectivement. Bon, je vais essayer de synthétiser, ça ne va pas être ça.
Le poids aujourd'hui de la vie monastique dans l'Église.
Ah oui, en numérique ou en...
Et sur le plan intellectuel.
Oui. C'est complexe aussi. Alors,
au bouquet final.
Au bouquet final, attention. Hein. Oui, c'est vrai. Donc moi, je vous ai évoqué un peu mon flash là, sur Saint-Benoît-sur-Loire, mais dans ce cas-là, pourquoi je ne suis pas allé à Saint-Benoît-sur-Loire, hein. Mais bon, ça, c'est la providence. Mais c'est vrai que j'ai été effectivement profondément attiré par l'aspect silencieux, beau, voilà, avec le sentiment qu'on entrait dans un autre monde. Voilà, bon, maintenant, depuis 25 ans, je me suis rendu compte que c'est pas un autre monde, c'est le même, mais, enfin, je veux dire, j'ai gardé tous mes liens avec ma famille, et avec mes amis, bon, enfin, autant qu'on peut, et puis je lis les journaux, etc., donc, à la limite, je suis plus dans le monde que j'y étais avant, mais enfin, c'est quand même ça qui m'a attiré, qui m'a décidé, bon, la beauté, le chant liturgique, etc., et voilà. Après ça, c'est un peu, je dirais, c'est la réponse un peu de ce que j'ai pu percevoir, mais quelque part, vocation, ça veut dire appeler, donc il y a aussi quelque chose de plus profond qui est mystérieux, même pour moi. Ça. Alors après, je reviens sur la question de la diversité. Pourquoi une telle diversité? Bon, ça a pu être quelque chose qu'on ne peut pas faire autrement, ou... qui était, bon, je pense par exemple à la multiplication des congrégations féminines au XIXe siècle. Pourquoi est-ce qu'on ne pouvait pas faire comme autrement? C'est parce que finalement, c'était au niveau des évêques qui étaient très désireux de fonder dans leur diocèse une congrégation, parce qu'ils savaient qu'il y avait plein de vocations de jeunes filles en particulier, et qu'ils étaient contents de pouvoir leur dire « va dans telle maison et puis rentre dans cette congrégation, qui t'enverra ensuite en Patagonie, mais c'est pas grave, ça dépend du diocèse. » Finalement, il y avait... un émiettement qui était simplement dû au fait qu'il y avait plein de choses qui pouvaient se créer, que voilà, on n'avait pas la possibilité de fédérer tout ça. Hein, donc c'est quand même toujours Rome qui garde finalement la lourde charge d'essayer de faire que ça n'aille pas dans tous les sens, que ça ne se concurrence pas. Mais bon, ça c'est un combat spirituel, certes, à renouveler chaque jour. Donc les directives maintenant que donne le pape et la congrégation, donc ce que j'appelle la congrégation, c'est qu'il y a un cardinal avec un certain nombre de secrétaires et plein de monde là-bas qui travaillent pour envoyer des directives, gérer tous les conflits, s'assurer de donner d'insuffler un bon esprit. Donc eux, ils insistent beaucoup justement sur le fait que il s'agit pas de... Alors, ça, c'était déjà de tous les temps. On voulait que, par exemple, que les bénédictins se regroupent en congrégation, donc ce qui maintenant est évident. Et puis, mais pour ça, pour avoir plus facile à former les jeunes, pour avoir plus facile à affronter les difficultés financières, donc l'entraide entre monastères. Et c'est plus facile au sein d'une congrégation que inter-congrégation. Voilà, ça, c'est vrai. Parce qu'on va dire... Au Concile, on a parlé du charisme de l'Institut, c'est-à-dire qu'est-ce qui définit vraiment l'esprit de... Pourquoi il y a cette fondation et pourquoi ça ne peut pas se faire dans l'autre fondation, ce qu'ils font. Alors, donc c'est vrai qu'il y a la figure du fondateur qui reste, même à des siècles de distance, quelque chose à quoi on se réfère. Alors peut-être qu'on lui fait dire ce qu'on veut, ça peut être un abus possible. Mais n'empêche que ça, c'est une raison d'être aussi de cette diversité. Et parallèlement, le pape François, par exemple, dit au monial de réfléchir par communauté, de ne pas vouloir dire maintenant, nous, on appartient à un ordre qui, depuis des siècles, fait comme ça, avec ce degré d'austérité qui est vraiment un mérite qu'on a. Donc il leur dit, non, attention, un peu de modestie, et puis commencez par vous demander si dans votre communauté, il n'y a pas des choses que vous pourriez adapter. Donc il encourage un peu cette, cette évolution d'une même communauté. Donc il essaye d'assouplir, que ce ne soit pas non plus une uniformité trop grande. Donc voilà, il y a un peu toutes les tendances, avec à chaque fois des inconvénients et des avantages. Mais c'est vrai que l'essence... Alors c'est pour ça qu'il y a aussi des fondations de toutes petites communautés. Et ça s'est toujours fait aussi, mais aujourd'hui, ça rejoint une certaine recherche, parce qu'on se dit... Ces grandes machines impersonnelles, même un ordre religieux, ça ne va pas respecter la personnalité de chacun. Même au VIe siècle, Jean Climac écrivait qu'il valait mieux être 3 ou 4 moines ensemble, pas plus, parce que la vie cénobitique, c'était quelque chose, un rouleau compresseur, et que ça favorisait finalement pas l'esprit de prière. Pardon ? Alors, bon, je termine sur le poids. Alors, il y a plusieurs considérations. Numériquement, donc, depuis qu'il y a eu en Occident cette diversification, elle s'est faite plutôt au profit des ordres nouveaux. Et donc, les moines se sont retrouvés un peu minoritaires, enfin, selon les époques, hein, mais minoritaires. Et aussi, la question du poids moral ou du poids intellectuel. Eh bien, finalement, ils ont été moins représentatifs. C'est un peu là, ce que j'ai vécu moi-même, en ne sachant pas que les moines existaient encore. Bon, ben, c'est parce qu'en fait, finalement, on pensait qu'effectivement, au Moyen-Âge, il y avait des moines, mais maintenant, il n'y en a plus, tellement ils sont minoritaires. Mais alors, certains s'en réjouissent, d'autres le déplorent. Aujourd'hui, depuis 20 ans, il y a eu par contre un retour des moines. Alors, numériquement, non, parce que le nombre continue de descendre, même aujourd'hui, mais par contre, tout le monde en parle, tout ce qui fait monastique, ça a plutôt la bonne presse, donc ça peut être parfois inversé.
L'hôtellerie s'est développée, notamment.
Voilà, alors on se retrouve moins nombreux pour faire plus de choses, l'hôtellerie qu'on a ici s'est développée, bon, on se retrouve plus nombreux pour faire moins nombreux pour faire plus de choses, parce que on a, alors la bière monastique, c'est forcément bien, et nous, on joue de cet argument, bien sûr, mais en même temps, voilà. Donc, bon, alors le poids intellectuel, ben, je pense que ben, les moines aujourd'hui sont peut-être quand même représentatifs, parce que le dépôt qu'on a reçu de tous ces siècles d'existence, en particulier avant les schismes, etc., ben, c'est que on représente une certaine unité justement entre l'Orient et l'Occident. Et même, bah, on a parlé des bouddhistes au début, donc ça fait inclusion. Finalement, on se dit, tiens, ben, tout le monde est fasciné par les bouddhistes zen, etc. Mais finalement, on a des moines aussi chez nous. Ah, ben tiens, ça devient un pont aussi. Il y a peut-être aussi un rôle là. Mais attention donc de garder cette spécificité chrétienne, quoi. Donc le moine chrétien, s'il n'y a pas le Christ, si le Christ n'est pas ressuscité, ben, il n'a plus qu'à jeter son froc aux orties.